Bonjour, nous sommes Yasmine, Imen, Sophia et Sacha, vos présentatrices du jour. Nous sommes des élèves du collège Rosa Parks à Amiens. Bienvenue dans Zoom sur l'égalité, une émission de radio en 3 épisodes qu'on a réalisée avec Radio Campus Amiens et notre professeur. Nous avons choisi de travailler sur l'égalité homme-femme et les sujets que nous allons aborder pour ce premier épisode sont les suivants. Une chronique sur les stéréotypes masculins et féminins dans le milieu de la mode et du mannequinat. Une enquête sur les inégalités hommes-femmes dans le sport professionnel. Un débat sur le rôle des réseaux sociaux dans la représentation des hommes et des femmes. Une interview à propos de Simone Veil.
On commence tout de suite avec le premier sujet. Neila, Eunice, Inès, Safia et Noah nous ont préparé une chronique en anglais sur les stéréotypes masculins et féminins dans le milieu de la mode et du mannequinat.
Hey, welcome to the talk show. Today we are going to talk about fashion and physical models. First, Noah is going to talk about hair differences, Ines about stereotypes in clothing, Noah about how women and men have to fit with society, popular belief wants people to have perfect bodies, and for the end, Neila is going to talk about makeup. Let's go, Noah. You can start.
In the generation, men are represented with short haircut and women with long hair. In fact, nowadays, a man can't have long hair without being seen as feminine. And women can't have short hair without being called tomboy or lesbian.
Oh yeah, like that one scene in The Walking Dead.
There is a lot of stereotype in clothing, like dresses, skirts, pink clothes and crop top are for girls. Jogging and blue color are for men. Women are judged if they wear short clothes, but when it's too long, they demanded to be more feminine. Men like Timothée Chalamet, Jean-Paul Gaultier, or even John Galliano break the code by wearing clothes judged feminine such as skirt.
Society sees the body of a perfect woman with a thin waist shape at the level of the buttock and chest. Men have to be tall and muscular.
Just because a man wears makeup doesn't mean he's gay. Because you can wear makeup for rock acting, or just because you like it. During the Renaissance, men wore makeup and wore earrings, especially the Egyptian too. It is a very old tradition. Makeup can also be sexy and seductive. For example, girls like K-pop singers, they are seen as handsome and they wear makeup. In rock and roll, it was already cool. We can think about Keith Richards, the Rolling Stone guitar player, and his black eyeliner. Makeup is used for fun or confidence. It is good for everybody, man or woman.
So we can see that it's possible to face stereotypes and tolerate them. Everyone is free to make their own choices. Thank you everyone for listening to us.
Merci les filles pour cette chronique. On continue l'émission. Alexis, Kevin, Razvan et Adem ont mené une enquête. Ils ont découvert que les inégalités hommes-femmes dans le sport professionnel étaient encore importantes malgré des améliorations notables.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les inégalités dans le sport entre les hommes et les femmes. En effet, l'égalité est loin d'être atteinte. Il reste énormément de chemin à parcourir. Par exemple, le sport est encore interdit aux femmes en Afghanistan.
Pour illustrer notre propos, nous sommes allés chercher des chiffres et nous avons découvert que les inégalités hommes-femmes sont encore importantes.
Dans le football, concernant le salaire est plus élevé dans le foot féminin et celui de Samantha Kerr, il est d'un montant de 480 000 euros annuels. Concernant le salaire le plus élevé dans le foot masculin, Cristiano Ronaldo touche 202,6 millions d'euros par an. La différence est colossale et elle est identique en termes de visibilité. Lors de la Coupe du Monde de football masculin en 2022, 1,5 milliard de téléspectateurs ont été comptabilisés. contre seulement 5,7 millions pour la dernière Coupe du Monde féminine.
Des sports comme le golf restent en majorité masculins. En effet, les pourcentages prouvent que les hommes sont plus nombreux. On compte 26% de femmes en compétition pour 74% d'hommes en France.
Dans la gymnastique, c'est l'inverse. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses. En France, le pourcentage de femmes pratiquant de la gymnastique est de 80%. Celui des hommes est de 20%. Dans d'autres chiffres, en disant long sur la représentation des femmes dans le monde du sport professionnel, pendant 100 ans, aucune femme n'a jamais fait partie du conseil d'administration de la FIFA. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, seulement 13% des entraîneurs étaient des femmes. Mais malgré cela, il y a du mieux. Par exemple, l'Australie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Brésil sont sur la liste des fédérations nationales de football qui se sont engagées à apporter une égalité salariale aux joueurs et aux joueuses de football en 2022.
En 2023, la Coupe du Monde féminine a reçu une enveloppe de 150 millions de dollars, ce qui fait une augmentation de 300% par rapport en 2019.
C'est tout pour cette enquête. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur les ondes de Radio Campus Amiens.
Merci les gars pour cette enquête. L'émission se poursuit et c'est l'heure du débat. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la représentation des hommes et des femmes? Amine, Junior, Léonce, Raphaël et Tigana vont en discuter.
Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous nous demandons si les réseaux sociaux favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes. Messieurs, qu'en pensez-vous? La parole est à vous.
Pour moi, les réseaux sociaux permettent la communication. Ils donnent accès à de l'information et à de la prévention. Ils vont dans le sens d'une meilleure cohésion entre les hommes et les femmes. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on peut voir énormément de contenu avec des hommes et des femmes travaillant et avançant ensemble. De nombreuses institutions sont aussi sur les réseaux sociaux, telles que Haut de Conseil et Égalité, et l'égalité entre les femmes et les hommes, ou de l'ONU Femmes.
Alors moi je suis contre. Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent les contenus clivants et de nombreuses trends qui rabaissent principalement les femmes selon une étude Ipsos menée fin 2022 pour l'association féministe contre le cyberharcèlement. 84% des victimes de cyberviolence sont des femmes.
Certes, mais les réseaux sociaux permettent également aux hommes et aux femmes de s'exprimer avec plus de facilité et plus de visibilité. On prend nos téléphones, on switch des vidéos, on swipe sur TikTok et on peut tomber sur des vidéos, sur des débats hommes-femmes. Par exemple, on a eu un cas récemment avec la gymnaste Simone Biles. Lorsqu'elle a remporté les médailles aux JO, elle a gagné beaucoup de visibilité, des abonnés. Les gens l'ont félicité pour ses performances. Nous avons également eu l'affaire Pellico qui a permis d'ériger Gisèle Pellico en un symbole des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Je suis contre car depuis le développement des réseaux sociaux, la pratique du revenge porn s'est largement répandue. Le revenge porn est un contenu sexuellement explicite, publiquement partagé en ligne sans le consentement de la ou des personnes concernées en guise de vengeance. Les femmes en sont les principales victimes.
Les réseaux sociaux permettent de promouvoir, revendiquer et sensibiliser à l'égalité entre les sexes.
Par exemple, beaucoup de comptes Instagram d'associations de défense des droits des femmes sont sur les réseaux sociaux tels que Agena ou Initiée la Amiens. Il y a quelques mois, une trend intitulée hashtag Women in Males Field circulait où des femmes imitaient des comportements sexistes des hommes dans les relations hétérosexuelles afin de les dénoncer.
Moi, je suis contre car les réseaux sociaux sont le foyer de nombreuses idées masculinistes. De nombreux influenceurs critiquent ouvertement la place des femmes dans la société. C'est le cas du créateur de contenu américain Andrew Tate, qui se revendique comme le roi de la masculinité toxique. Il a déjà affirmé que les victimes de violences sexistes et sexuelles avaient leur part de responsabilité.
Mesdames, messieurs, je pense qu'en conclusion, nous pouvons dire que les réseaux sociaux favorisent certes l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'il y a quand même certaines différences et que tout le monde doit faire attention.
Quel débat animé. Merci, messieurs. On termine l'émission avec l'interview de Sacha, qui a écrit un livre sur Simone Veil, un sujet réalisé par Soukaina.
Bonjour, Sacha. Tu as fait de recherches sur Simone Veil. Je veux te poser quelques questions.
Bonjour.
Qui est Simone Veil?
Simone Veil est une magistrate et une femme politique française. Simone Veil est née en 1927 dans une famille juive aux origines lorraines.
Pourquoi est-il connu?
Parce que c'était une femme politique française, elle était juive et était dans le camp de concentration de Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a contribué à l'adoption de lois faisant avancer le droit des femmes, le droit à l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse.
Quelle a-t-elle vécu dans ses enfances ?
Simone Veil a grandi dans une famille juive laïque à Nice, dans un environnement cultivé et aimant. En 1944, à 16 ans, elle est arrêtée par la Gestapo. Elle survit au camp, mais perd sa mère morte d'épuisement.
Quel impact a-t-elle ou su de soucis français?
Simone Veil a fait adopter la loi sur l'avortement, défendu la mémoire de la Shoah et œuvré par l'unité européenne en devenant la première femme présidente du Parlement européen.
En quoi elle, la loi Veil sur IVG est-il à une partie importante de loi française pour les femmes?
Cette loi dit que la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 10e semaine. Cela veut dire que si l'on tombe enceinte et qu'on veut pas garder le fœtus, on peut arrêter la grossesse. Cela peut se faire pendant les 10 premières semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi. La loi du 17 décembre 2012 permet quant à elle une prise en charge à 100% des IVG par l'assurance maladie. La loi du 4 juillet 2001 allonge le délai légal de 10 à 12 semaines de grossesse et assouplit les conditions d'accès aux contraceptifs et à l'IVG pour les mineurs. La loi du 2 septembre 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement instaure un nouvel allongement du délai légal de 12 à 14 semaines. Le 8 mars 2024, le Parlement réuni en congrès à Versailles vote l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour chaque femme d'avoir recours à l'IVG. La France devient ainsi le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté fondamentale de recourir à l'avortement qui relève de la seule appréciation des femmes. On voit que la France choisit de faire de cette loi une liberté fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à cette liberté, elle est nécessaire au bien-être des citoyennes en France. Ce n'est pas comme aux USA. Pourtant, une démocratie où ce droit est remis en cause dans certains États, en 2022, le droit à l'avortement est déclaré comme étant non constitutionnel. Aux USA, les États choisissent ce qu'ils veulent en faire. Il est interdit maintenant dans 13 États. Effectivement, la France se positionne en défenseur des droits dans cette histoire. Merci.
Merci pour toute cette information. À bientôt.
Merci les filles pour cette interview. C'est déjà la fin du premier épisode de notre émission Zoom sur l'égalité, un projet réalisé par les 3e du collège Rosa Parks à Amiens, en partenariat avec Radio Campus Amiens et notre professeur. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao.